RFI 22h, à Paris 21h en temps universel.
Charlotte de Rouen.
À Munich, Volodymyr Zelensky a appelé ses alliés européens au sursaut face à la Russie. Le président ukrainien qui appelle à tout faire pour éviter un accord forgé par les Américains avec la Russie et dans le dos de l'Ukraine. Le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf, élu à la tête de la commission de l'Union africaine, il succède au Tchadien Moussa Faki Mahamat pour un mandat de 4 ans. Aux États-Unis, Donald Trump prend la tête de l'une des plus grosses institutions culturelles du pays. Le président américain qui a promis des changements de programmation de cette institution qu'il qualifie de woke. Et c'est tout le milieu culturel américain qui s'inquiète désormais d'être la prochaine cible du locataire de la Maison Blanche. Et puis pour inciter à faire plus de place aux femmes et aux autochtones, les institutions financières canadiennes vont bientôt devoir rendre des comptes sur les minorités visibles présentes au sein de leur conseil d'administration.
RFI.
À la conférence sur la sécurité de Munich, Volodymyr Zelensky a appelé ses alliés européens à être vigilants face à la Russie. Le président ukrainien a rappelé que l'Ukraine n'accepterait aucun accord de paix si son pays et l'Europe ne prenaient pas part aux discussions, alors que les États-Unis comptent, eux, évoquer sans autre partenaire la fin de la guerre avec la Russie. Il a également appelé l'Union européenne à prendre en main sa défense, à avoir ses propres forces armées pour pouvoir faire face aux éventuelles menaces. Selon le président ukrainien, la situation actuelle et les renseignements obtenus par Kiev démontrent que Vladimir Poutine ne souhaite pas la paix. Écoutez.
They don't want peace. Ils ne veulent pas la paix, ils ne se préparent pas au dialogue. Presque tous les jours, la Russie nous envoie jusqu'à 100 drones de Shahid, voire plus, chaque jour. Nous subissons aussi des attaques avec des missiles balistiques. On assiste à une augmentation des bombardements aériens. Mais ce n'est pas tout. Cette année, Moscou prévoit de créer 15 nouvelles divisions, soit 150 000 soldats supplémentaires. C'est plus que les armées nationales de la plupart des pays européens. La Russie ouvre chaque semaine de nouveaux centres de recrutement de l'armée et Poutine peut se le permettre, car les prix du pétrole sont encore suffisamment élevés pour qu'ils puissent ignorer la communauté internationale. Par ailleurs, nous savons que la Russie prévoit d'envoyer des troupes au Bélarus cet été, sous le prétexte de réaliser des exercices. C'est exactement de cette manière qu'ils avaient organisé leurs forces avant de lancer l'invasion de l'Ukraine il y a 3 ans.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky aujourd'hui à la conférence sur la sécurité à Munich. Notez par ailleurs que le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a réaffirmé ce samedi l'engagement du président Donald Trump à mettre fin à la guerre en Ukraine dans un entretien téléphonique avec son homologue russe Sergei Lavrov. Eh bien, il a convenu de reprendre le dialogue et de coopérer avec Moscou pour le règlement de ce conflit. En Autriche, un homme a attaqué plusieurs personnes au couteau aujourd'hui dans la petite ville de Villach, dans le sud du pays. Un adolescent de 14 ans est décédé. 4 autres personnes ont été blessées, dont 2 grièvement selon la police. Les autorités qui annoncent également avoir arrêté un suspect, un ressortissant syrien de 23 ans. Le candidat djiboutien Mahmoud Ali Youssouf vient d'être élu président de la commission de l'Union africaine à Addis Abeba. Il l'a emporté au 7e tour avec 33 voix sur 49. Actuellement ministre des Affaires étrangères djiboutien, il succédera au Tchadien Moussa Faki Mahamat, dont le second mandat à la tête de l'organisation s'achève dans un mois. Et jusqu'au bout, la compétition a été serrée, Florence Maurice.
Le suspect a duré jusqu'au bout et c'est vers 18h que les applaudissements ont retenti sur cette nouvelle, l'élection du candidat djiboutien avec 33 voix sur 49. Il obtient tout juste le nombre de votes nécessaires pour être élu après 7 tours de scrutin et une bataille serrée. Au premier tour, c'est le Kenyan Raila Odinga qui était en tête avec 20 voix, mais progressivement, le candidat djiboutien est remonté, bénéficiant notamment du report des voix du candidat malgache, éliminé après le troisième tour. Finalement, rétrogradé deuxième même à la fin du sixième tour de vote, Raila Odinga a dû se retirer comme le prévoient les statuts de l'Union africaine. Le candidat se présentait pourtant comme le favori. Il pouvait notamment compter sur le soutien de l'EAC et sa renommée à l'international, mais il a certainement pâti de son âge, 80 ans. À l'inverse, Mahamoud Ali Youssouf est relativement jeune, 59 ans. Il est familier des arcanes de l'Union africaine qu'il pratique depuis 20 ans. En tant que ministre des Affaires étrangères de son pays, il parle aussi trois langues, anglais, français, arabe. C'est un jour historique pour Djibouti, se félicite ce soir Oumed Daoud Abdallah, porte-parole de la majorité présidentielle de Djibouti. Le peuple djiboutien exulte, dit-il.
Et l'Algérienne Selma Haddadi est élue au poste stratégique de vice-présidente de la commission. Elle a obtenu 33 votes face aux deux autres candidates, une Marocaine et une Égyptienne. Au Mali, au moins 48 personnes sont mortes dans l'effondrement d'un site d'orpaillage illégalement exploité dans l'ouest du pays. C'est ce qu'indiquent des sources locales à l'agence France-Presse. Au Proche-Orient, trois otages israéliens ont été libérés ce samedi en échange de 369 détenus palestiniens. Et ce qui retient l'attention aujourd'hui, ce sont ces images, celles de ces détenus palestiniens libérés par Israël, habillés en survêtements floqués d'une étoile de David, avec cette phrase à côté « Nous n'oublions pas, nous ne pardonnons pas ». Le Comité international de la Croix-Rouge a appelé toutes les parties à faire plus pour garantir que les échanges se tiennent dans la dignité et la discrétion. Fin de citation. L'armée israélienne qui annonce ce soir avoir frappé un mort important de l'unité aérienne du Hezbollah dans le sud du Liban. Dans un communiqué, l'armée précise que la cible de cette frappe a violé de manière répétée les accords entre Israël et le Liban au cours des dernières semaines. L'agence de presse officielle libanaise, elle, fait état de 2 morts et 4 blessés lors d'une frappe sur un véhicule dans le sud du pays. C'est la première fois qu'un président américain prend la tête du Kennedy Center, une grande institution culturelle américaine. Donald Trump a été officiellement nommé président de ce haut lieu des arts du spectacle vivant aux États-Unis, fondé par le président Eisenhower en 1955. Après avoir purgé le conseil d'administration, le locataire de la Maison-Blanche a promis des changements de programmation qu'il qualifie actuellement de « woke », Carlotta Morteo.
Rien de ce qu'on pouvait y voir ne m'intéressait, a déclaré Donald Trump, qui admet n'avoir jamais mis les pieds au Kennedy Center. Immense bâtiment situé le long du fleuve Potomac à Washington, c'est l'une des plus grosses institutions culturelles américaines. Il accueille 2 millions de visiteurs par an, plus de 2000 spectacles, opéras, théâtres, concerts, ballets. C'est aussi le berceau de l'Orchestre National Symphonique. Essentiellement classique, le répertoire s'est ouvert ces dernières années à une offre plus contemporaine pour, je cite, « représenter la diversité culturelle de l'Amérique ». Ce centre a toujours bénéficié d'un soutien politique bipartisan et n'est financé qu'à 17% par des fonds publics. Mais Donald Trump justifie sa mise au pas à cause d'un spectacle de drag queen proposé l'an dernier. Donald Trump a purgé le conseil d'administration pour y placer des fidèles. La directrice de l'institution a été limogée. Plusieurs cadres artistiques ont démissionné. Who's next? À qui le tour? C'est la question qui taraude désormais le milieu culturel américain.
Et justement, alors qu'à Washington, Donald Trump fait la chasse aux wokistes et aux mesures inclusives dans l'administration, à Ottawa, les autorités canadiennes, elles cherchent pour leur part à favoriser la diversité à la tête des institutions financières du pays. Hier, le Canada a publié une décision qui impose aux banques et aux assurances de rendre des comptes sur la place des femmes, des autochtones ou encore des personnes handicapées dans leurs entreprises. Les détails avec Justine Fontaine.
Par cette décision, les autorités fédérales à Ottawa vont imposer aux banques, aux compagnies d'assurance et autres institutions financières de rendre public le nombre de femmes, d'autochtones, de personnes handicapées et de membres de minorités visibles qui sont présentes dans leur conseil d'administration et au poste de direction. Cela concerne les institutions financières cotées en bourse. La mesure existe déjà dans d'autres secteurs comme les télécoms, l'aéronautique et le chemin de fer. Le gouvernement de Justin Trudeau, sur le point de quitter le pouvoir, cherche ainsi à se démarquer de son voisin, Donald Trump, qui au soir de son investiture a déclaré illégaux les programmes fédéraux de diversité et d'inclusion et a ordonné le licenciement de tous les fonctionnaires qui y travaillaient. Bon nombre de grands groupes américains sont aussi revenus en arrière récemment sur leurs programmes en la matière. Au Canada, dans les entreprises soumises à des règles de diversité, près de 60% des conseils d'administration comptent au moins une femme parmi leurs membres, des chiffres en légère hausse par rapport à 2023.
Justine Fontaine du service économie de RFI. Un dernier mot pour vous dire que l'agence mondiale antidopage a décidé de suspendre le numéro 1 mondial de tennis, Yannick Sinner, pendant les 3 prochains mois.